Bon, nous allons continuer notre étude sur Ecclésiaste. On avait débuté la semaine dernière à étudier le passage d'Ecclésiaste, chapitre 7, versets 1 à 12. Donc, on va relire le passage d'Ecclésiaste 7, versets 1 à 12. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? » Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alors, on avait donné la semaine dernière, on rappelle le titre qu'on avait donné, on va faire une brève révision de ce qu'on a vu la semaine dernière, et ensuite, on va terminer la leçon d'aujourd'hui. Alors, je rappelle le titre qu'on avait donné, qui était « Conseil pour une vie meilleure, la lucidité, la prudence et la sagesse ». Donc, on est dans la deuxième partie de ce sermon-là. Alors, on rappelle dans l'introduction que du premier verset du chapitre 1 du livre de l'Ecclésiaste jusqu'à ce qu'on est rendu aujourd'hui, chapitre 7, l'Ecclésiaste ou Salomon s'était efforcé de montrer avec force que la vie sans Dieu est vaine. Alors, on avait reproduit un petit peu le plan du livre et on veut un peu faire la révision de ce qu'on avait vu dans cette partie-là du livre. Parce que dans le fond, il y a un fil conducteur à l'intérieur de tout le livre et il est important qu'on le voit. Alors, on le rappelle rapidement, le thème du livre de l'Ecclésiaste, c'est « La vie sans Dieu est vaine ». Alors, bien entendu, Salomon, qui était le roi à qui Dieu avait donné le plus de sagesse, avait voulu démontrer cette vérité-là, que la vie sans Dieu est vaine. Alors, on avait vu dans l'introduction du livre, qui va du premier verset du chapitre 1 jusqu'au verset 11 du chapitre 1, Salomon avait démontré que tout dans la vie semble vain. Et il avait aussi donné quelques réflexions sur le cycle monotone de la nature et aussi de l'existence humaine. Ça, c'était dans l'introduction. À partir du verset 12 du chapitre 1 jusqu'au verset 12 du chapitre 6, là, il avait voulu démontrer en détail la vanité de toute chose dans la vie. Alors, on va les regarder un petit peu parce que c'est important. Si on ne réalise pas le fil conducteur du livre, on perd quelque chose. Alors, il a voulu démontrer la vanité de toute chose dans la vie, dans cette section-là, verset 12, chapitre 1, jusqu'au verset 12, chapitre 6. Qu'est-ce qu'il a voulu démontrer? Il a voulu démontrer la vanité de la recherche de satisfaction dans la sagesse humaine. Deuxième chose qu'il a voulu démontrer, c'est la vanité de la recherche de satisfaction dans l'expérience humaine, soit le plaisir, soit la boisson, soit les travaux de construction, soit l'agriculture, soit l'horticulture, soit les possessions étendues, la richesse et la musique. Dans la troisième chose qu'il avait voulu démontrer, la vanité de la recherche de la satisfaction dans la sagesse humaine et dans le travail humain. Quatrième chose, il avait voulu démontrer la vanité de la recherche de satisfaction dans le monde présent. Donc, dans le monde présent, il y a une certaine fatalité pour l'incroyant, tandis que il y a un plan souverain pour le croyant. Et il y a aussi, l'être humain ou le croyant se doit de percevoir la méchanceté et l'oppression qui s'étale partout. Autre chose, il avait voulu montrer que dans de nombreuses situations, deux personnes réussissent mieux qu'un seul ou deux croyants. Et l'autre chose qu'il a voulu démontrer, c'est que la popularité est quelque chose de passager. Et il a voulu démontrer aussi nos devoirs vis-à-vis de Dieu, soit l'adoration, le service et la crainte. Et ensuite, il avait démontré comme cinquième point la vanité de la recherche de satisfaction dans la richesse. Alors là, ça rappelle un peu ce qu'on a vu jusqu'ici. Et à partir du chapitre 7, verset 1, jusqu'à la fin du livre, de 7.1 à 12.9, l'idée principale que l'Ecclésiaste va vouloir développer, c'est comment vivre avec cette vanité-là. Alors, la première chose qu'il va vouloir commencer à démontrer dans les versets 1 à 14, c'est des conseils pratiques pour une vie bien réglée. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Donc, dans les versets 1 à 6, on avait vu qu'il voulait démontrer une vie meilleure par la lucidité. Alors, on pourrait se demander la lucidité de quoi? La lucidité, bien entendu, spirituelle. Alors, dans les versets 1 et 2, il avait voulu démontrer qu'il parlait de la bonne réputation qui valait mieux que le bon parfum et que le jour de la mort plus que le jour de la naissance et qu'il valait mieux aller dans la maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car là est la fin de tout homme, et celui qui vit met cela dans son cœur. Alors, on rappelle rapidement, sans revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière, elle voulait montrer que le chrétien doit comprendre la valeur de la réputation. Et il voulait aussi démontrer comment la supériorité, que le croyant se doit de comprendre la supériorité du jour de la mort sur celle de la naissance. Il continuait aussi en voulant que le chrétien comprenne l'inévitabilité de la mort et du jugement. Alors, il voulait que l'être humain prenne conscience de la nécessité de se rappeler la réalité de la mort. Et il voulait également que le croyant voit la nécessité d'intégrer ce conseil-là et de le prendre au sérieux. Dans les versets 3 à 4, on voyait que la lucidité, il avait besoin de saisir la lucidité quant à l'utilité pédagogique des afflictions. Autrement dit, Dieu permet qu'on ait des afflictions dans nos vies. Une utilité pédagogique, ça veut dire que la pédagogie, c'est de l'enseignement. Alors, il voulait démontrer comment le Seigneur utilise les afflictions dans nos vues, dans le but de nous enseigner des choses-là. Alors, la lucidité quant à l'utilité pédagogique des afflictions, et aussi, troisièmement, la lucidité de bien recevoir les réprimandes des sages, dans les versets 5 à 6. Alors, on avait commencé un petit peu le deuxième point la semaine dernière, une vie meilleure par la prudence. Alors, on avait vu la prudence de ne pas imiter le comportement des méchants. Alors, l'idée principale de ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que l'être humain, même régénéré, Lorsqu'il est placé dans des circonstances où il souffre beaucoup à cause de son observation de tout ce qui se passe autour de lui, peut être tenté à aller dans la même direction que les méchants, autrement dit, à les imiter. Alors, il veut, dans le verset 7, quand il dit « L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur », donc il voulait montrer que le chrétien peut connaître la tentation d'opprimer lui aussi à son tour et connaître aussi la tentation de glisser dans le piège de la corruption qui est vraiment omniprésente autour de nous. Alors, il faisait vraiment un conseil de ne pas tomber dans ce piège-là. Et là, on était rendu au verset 8. Alors, on continue. Alors, il dit dans le verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Alors, ici, on voit l'idée de la valorisation du travail bien accompli et un travail qui est mené jusqu'au bout, qui est terminé. Alors, on sait que de nombreux projets démarrent avec de bonnes intentions, mais ne sont pas terminés. Ce n'est que lorsqu'ils sont terminés que nous pouvons vraiment regarder en arrière avec satisfaction. Beaucoup de choses commencent par le chagrin et la difficulté pour finir dans la joie et la paix. Autre idée qu'il veut exprimer dans le verset 8, c'est celle de la valorisation de l'humilité plutôt que de l'orgueil, quand il dit « mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain ». Alors on a l'idée parallèle qui est donnée dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 3, verset 12, qui nous dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Alors on voit que les principes qui sont enseignés dans l'Ancien Testament sont vraiment comme répétés et affirmés dans le Nouveau également. Alors, on parlait de prudence. Le troisième point de prudence, c'est la prudence de ne pas contester l'ordre providentiel du Seigneur. Bien important de comprendre que la providence du Seigneur, c'est l'ensemble des circonstances qu'il permet, qui vont arriver dans nos vies. Et on perçoit certaines circonstances comme étant heureuses. Bien entendu, quand il nous arrive des choses que le Seigneur nous envoie, des bénédictions, on les apprécie, et là, on dit « le Seigneur m'a béni », mais aussi, parfois, il nous envoie des afflictions. Par les afflictions, il te bénit aussi, mais seulement la difficulté est de le comprendre pour nous. Alors, quand on dit le point, la prudence de ne pas contester l'ordre providentiel de Dieu, dans le verset 9 et 10, il dit « ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. » Alors, s'irriter, parce que parfois on reçoit des choses de la vie et on peut être irrité, on peut même aller jusqu'à questionner la bonté de Dieu et on n'est pas content de nos circonstances, autrement dit. Je pense qu'aucun critique n'est pas passé par là. Et dans le verset 9, il nous dit que l'irritation, c'est une mauvaise chose. Alors, on se doit de gouverner notre passion avec sagesse et avec grâce. Évitons la colère, car ceux qui sont hâtifs dans leurs attentes et qui ne supportent pas les retards dans l'accomplissement de leurs désirs, sont susceptibles d'être en colère s'ils ne sont pas immédiatement satisfaits. Alors, il nous dit que l'irritation est une mauvaise chose. Et on peut voir exactement la même idée dans Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27, lorsqu'il nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez point accès au diable. » Donc, l'irritation, c'est une mauvaise chose. Et aussi, dans le verset 10, la contestation de nos circonstances providentielles est aussi une mauvaise chose. Il n'est pas sage de préférer ce qu'on pourrait appeler le bon vieux temps. Les raisons sont les suivantes. C'est le Seigneur lui-même qui a décrété les circonstances des époques, des vies des nations et des individus. Tout est rempli de sagesse et d'intelligence et pour des buts précis. Si nous percevons que les choses étaient meilleures dans le passé, c'est que nous avons oublié les mauvaises choses qui se manifestaient alors. Le Seigneur nous dit que ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Alors, on peut aller voir un verset qui exprime l'idée parallèle dans le Nouveau Testament. Dans Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté çà et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. Alors, on va regarder le troisième point, la vie meilleure par la sagesse, les versets 11 et 12. Salomon, dans ces versets-là, 11 et 12, nous recommande la sagesse comme le meilleur antidote contre les maladies d'esprit auxquelles nous sommes sujets, à cause de la vanité et de la vexation d'esprit qu'il y a dans les choses de ce monde. Voici quelques-unes des louanges et des préceptes de la sagesse. Verset 11. La sagesse est bénissante, c'est-à-dire qu'elle nous bénit et qu'elle est aussi avantageuse. Alors, ça dit dans le verset 11, « La sagesse est aussi bonne qu'un héritage. » Bien sûr, si un homme, dans sa vie, il y a quelqu'un de riche dans sa famille qui lui donne un héritage important, il nous dit que la sagesse est aussi bonne qu'un héritage. Et même, il va plus loin parce qu'il dit « Elle est un avantage pour ceux qui voient le soleil. » La sagesse, c'est quelque chose de nécessaire pour bien gérer nos biens matériels. La sagesse est bonne si nous recevons quelque chose comme un héritage. Sans sagesse, un héritage sera mal apprécié et mal administré. La sagesse n'est pas seulement bonne pour les pauvres, mais elle est aussi bonne pour les riches, pour empêcher qu'un homme en souffre et pour permettre à un homme de faire du bien avec l'héritage reçu. La sagesse est bonne en elle-même et peut rendre l'homme heureux et utile à ses semblables. Donc, le verset 12, la première partie du verset 12, ça nous dit que la sagesse procure de la protection comme l'argent. Quand on a beaucoup d'argent, ça nous protège jusqu'à un certain point. Alors, ça dit dans le verset 12, « Car on est à couvert à l'ombre de la sagesse » et à l'ombre de l'argent. Alors, la sagesse va contribuer à notre sécurité et aussi à nous protéger des problèmes de la vie. Elle peut se comparer à l'ombre qui nous protège du soleil. Elle peut aussi se comparer à l'argent, dont on dit que l'argent répond à tout. Salomon met la sagesse et l'argent ensemble pour confirmer ce qu'il avait dit auparavant, que la sagesse est bonne avec un héritage. Elle est comme un mur Et l'argent peut servir de haie d'épine qui protège le champ. Dans le verset 12b, ça nous dit, « Mais la science a cet avantage, fait vivre celui qui la possède. » C'est la joie et le vrai bonheur d'un homme. C'est l'excellence de la connaissance divine. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse et c'est la vie. Parce que ça dit, mais la science a cet avantage que la sagesse fait vivre celui qui la possède. Alors, ça prolonge la vie. La richesse des hommes expose leur vie à de multiples dangers. Mais leur sagesse, s'ils l'ont reçue de Dieu, peut les protéger de ces multiples dangers. La richesse ne prolongera pas la vie naturelle, tandis que la vraie sagesse donnera la vie spirituelle, le gage de la vie éternelle. Elle est plus précieuse que l'or. La sagesse fortifie leur esprit, les rend résolus et les maintient toujours sur des bases solides et sûres. Ceux qui sont vraiment sages sont placés sous la protection de Dieu lui-même et ils sont plus en sécurité. Alors, j'ai donné trois applications, il pourrait en avoir beaucoup plus que ça, mais au moins trois grandes applications concernant l'ensemble du passage qu'on a étudié ce matin. Alors, la première, je dirais, apprécions et recherchons la lucidité spirituelle. Elle nous fait comprendre la valeur de la réputation, nous montre la supériorité de la mort sur la naissance et son inévitabilité. Elle nous fait apprécier l'utilité pédagogique des afflictions qui nous sont envoyées par le Seigneur. Elle nous rappelle de bien accueillir les réprimandes des sages. Deuxième application, vraiment c'est concernant la prudence. La prudence nous montre, nous permet de résister à la tentation et de ne pas suivre l'exemple des méchants ou essayer de les imiter dans leur pratique de l'oppression. Elle nous fait voir la folie de glisser dans le piège de la corruption. Elle nous apprend à valoriser le travail bien accompli et à le terminer. Nous devons toujours choisir l'humilité plutôt que l'orgueil. La prudence nous rappelle de rejeter l'irritation et de ne pas contester nos circonstances providentielles parce qu'elles nous sont envoyées par Dieu lui-même et sont remplies de sagesse, d'amour, de grâce et de miséricorde. Troisième point, la sagesse est bénissante et elle est aussi avantageuse. Elle nous procure de la protection comme l'argent. Elle est aussi une source de vie, tant matérielle que spirituelle. Alors, honorons le Seigneur en mettant en pratique ces sages instruments de bonheur terrestre, et exprimons-lui notre reconnaissance quotidiennement pour sa plus grande gloire. Amen.